France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
La race est un concept repris à la fin du XVIIIe siècle par les naturalistes qui en ont fait l'intermédiaire entre deux notions, l'espèce et la variété. Au XIXe siècle, ce concept scientifique va glisser pour servir à la recherche de critères de distinction, de classification et de hiérarchisation des races humaines. Comment, partant de ce concept de race, utile à ceux qui pensaient leur théorie de l'évolution, a-t-on dérivé vers une justification par la biologie d'une domination ? Science Chrono fait aujourd'hui la généalogie d'une idée venue des sciences aux conséquences historiques particulièrement lourdes. Bonjour Claude-Olivier Doron.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire et philosophie des sciences à l'université Paris Diderot. Vous êtes par ailleurs membre du laboratoire Sphère et auteur du livre « L'homme altéré, race et dégénérescence, 17e-19e siècle » paru aux éditions Champvallon. Merci beaucoup de venir nous parler aujourd'hui de ce sujet qui va nous emmener dans les retranchements de la science et des idéologies qui ont lourdement imprégné l'histoire. Avant de nous y plonger, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous vous parlerons de la découverte en Tanzanie de 27 outils en os taillés il y a 1,5 million d'années, ce qui repousse d'un million d'années nos connaissances sur la production standardisée et systématique d'outils en os. Une très belle découverte qui soulève, on le verra, tout un tas de questions sur les individus qui ont fabriqué ces outils. Mais avant cela, revenons à notre histoire des sciences et à cette notion de race, une notion d'abord redéfinie par les naturalistes, qui a ensuite notamment servi à la fabrication de discours racistes théorisant, par un recours opportuniste à la biologie, la supériorité de groupes humains sur d'autres. Avant d'expliquer les mécanismes de cette dérive et d'autres réemplois de ce concept, il faut revenir, Claude-Olivier Doron, à la source de la transformation scientifique de ce concept de race. Dans quel contexte divers on utilisait ce mot de race jusqu'au milieu du XVIIIe siècle ?
Alors, il faut rappeler effectivement que la notion de race, en fait, elle a une histoire bien plus longue que simplement le XVIIIe siècle. En fait, elle apparaît dans les langues vernaculaires et notamment en français, en italien et en espagnol, avec une spécificité pour le cas espagnol d'ailleurs, à partir du XVe siècle, en gros. Et on la retrouve, en gros, dans plusieurs champs où elle recouvre des significations qui sont pas exactement identiques. D'un côté, il y a un champ qui, on va dire, le champ religieux, très important, où elle va décrire des lignages qui sont marqués par les fautes ou au contraire les qualités de leurs ancêtres. Vous héritez par exemple tout simplement en tant que descendant de la race d'Adam, vous êtes de la race d'Adam et vous héritez du péché originel. Et on va identifier tout un ensemble de lignées comme ça qui sont marquées par le péché originel de leurs ancêtres, enfin le péché de leurs ancêtres plus originel celui-là bien sûr, ou inversement par les qualités de leurs ancêtres. Bon, ça c'est un premier champ, hein. Il y a un deuxième champ qui est un champ qui est assez proche, qui est celui de la noblesse et notamment en France où il faut avoir en tête, hein, que la noblesse de race, c'est une catégorie y compris juridique, hein. Et être noble de race, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est que vous êtes issu d'un lignage vertueux qui, depuis des générations, a fait preuve de qualité et de vertu. Bon. Et puis, il y a un troisième espace très important, y compris surtout pour la suite, d'ailleurs, de notre histoire, c'est l'ensemble des discussions qui ont lieu dans le champ de l'élevage, où il s'agit de produire littéralement des races à travers des dispositifs visant à améliorer en sélectionnant, enfin en choisissant un certain nombre de géniteurs et en les faisant se reproduire pour produire une race avec des qualités plus importantes. Enfin, il y a un dernier espace qui est un espace qui est celui, on va dire, des travaux qui portent sur les descriptions du monde, les cosmographies, les récits de voyage, où on va utiliser la notion de race pour décrire des ensembles de populations qui ont une même origine. Bon, c'est en gros l'ensemble de ces usages qu'on va retrouver ensuite, avec peut-être juste une chose, c'est il y a une particularité dans le cas espagnol, c'est que hispano, on va dire ibérique, c'est-à-dire espagnol et portugais, c'est que la notion de raza, il renvoie à quelque chose d'assez différent, qui est au départ une tache, une marque, un défaut. Et un défaut que vous pouvez hériter ensuite de vos ascendants, et notamment les dispositifs dits de pureté de sang, de limpieza de sangre, insistent explicitement sur le fait que les personnes ne doivent pas être porteurs de raza, Et il faut entendre par là de défauts liés notamment à une ascendance maure ou juive, par exemple. Mmh. Bon, c'est un cas assez spécifique, qui est un peu différent des autres, mais qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit.
Alors, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que dans sa première acception, ce terme de race est intimement lié à l'idée d'une généalogie et que, au cours du XVIIIe siècle, finalement, on va rapprocher doucement ce terme de race d'études plus liées à la biologie. Comment ça se passe? Comment ce terme de race déboule-t-il dans les recherches scientifiques?
Alors, il est effectivement lié à la généalogie de manière très forte, tout ça, ne serait-ce que parce qu'il fait partie d'une constellation de vocabulaire qui tourne autour de la question de la génération. Hein. Génération, de race en race, de génération en génération, c'est la même chose. Hein. Et les équivalents dans tout un ensemble de langues de race, c'est génération, gérassant, par exemple en portugais, etc. Bon. Donc, il y a vraiment cette dimension généalogique qui est très importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, au milieu du XVIIIe siècle, pour des raisons qui sont liées à l'histoire même du savoir de l'histoire naturelle, il se trouve que ce savoir de l'histoire naturelle va se restructurer autour de la question généalogique. Mmh. Pour dire les choses de manière assez simple et assez rapide, si vous voulez, dans les classifications de l'histoire naturelle que vous trouvez depuis le XVIIe siècle, la problématique n'est pas une question de généalogie et de parenté. On établit des distinctions avec un classement hiérarchisé, avec des ordres, des genres, des espèces, etc.
Ça, c'est Carl von Linné, par exemple.
Voilà. Et on va distinguer un certain nombre de caractères qui sont des caractères hiérarchisés comme ça, mais pour définir une forme d'ensemble taxinomique avec une forme de hiérarchie qui est apparentée par un certain nombre de personnes à une sorte de catalogue dans lequel qui permet à tout le monde de se mettre d'accord pour décrire un être naturel quand vous voulez l'observer. Bon. Et dans les années, on va dire dans la deuxième moitié du 18e siècle, tout un ensemble d'auteurs vont critiquer ce système linéen de classification en disant qu'il est artificiel et arbitraire et qu'il faut retrouver un système qui est beaucoup plus fondé en nature. Et quel est le système qui pourrait être fondé en nature? Il y a une phrase assez claire de ce point de vue-là d'un botaniste français qui s'appelle Duchesne, qui le dit très très bien, hein, qui dit « l'ordre généalogique est le seul que la nature indique et qui satisfasse l'esprit. Tout autre est vide d'idées et arbitraire. » Bon, cette formule est parfaite. Elle résume une position qui est celle de Buffon, par exemple, qui est celle de Kant, qui est celle justement de Duchesne, qui consiste à dire ce qu'il faut faire, c'est se fonder sur des rapports qui existent en nature. Et ces rapports qui existent en nature, c'est quoi? Ben, c'est des rapports de parenté. C'est des rapports d'héritage au sens où un caractère se transmet à travers les générations. Et ce qui va définir les grandes catégories de l'histoire naturelle, ça va être les pensées en termes justement de lignées généalogiques. Alors c'est évidemment le cas pour l'espèce. L'espèce naturelle, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est justement l'ensemble des individus qui sont susceptibles de se reproduire entre eux sur plusieurs générations. Hein. Et ça pose immédiatement la question de est-ce qu'il y a d'autres ensembles en dessous de l'espèce, dans lesquels se transmettent un certain nombre de caractères.
Linné disait oui, il y a la variété qui est ensuite, voilà, c'est au sein de la même espèce, c'est ce qui est changeant finalement au sein du même espèce.
Oui, mais sauf que Linné, en fait, lui repose, enfin en tout cas dans ses textes de classification, hein, il y a d'autres cas où ce serait un peu différent, mais dans ses textes portant sur des classifications, en fait, lui repose sur un système assez simple et assez binaire, c'est-à-dire en gros, vous avez d'un côté les deux unités qui sont les plus importantes pour lui, qui sont le genre et l'espèce. L'espèce étant l'unité ultime, stable, la plus stable, la dernière unité stable, on va dire, dans la nature. Et puis, il y a tout un ensemble de choses qui ont un statut un peu bizarre, qu'il appelle les variae, les variétés, et qui sont une collection de variations qui peuvent varier selon les temps, selon les lieux. Bon, il n'y assigne pas une valeur généalogique, d'accord ? À la rigueur, la seule unité vraiment avec un sens généalogique, c'est celle de l'espèce, justement. Et un bon exemple de ça, qui illustre assez bien ça, c'est si on se penche sur le cas spécifique, justement, des hommes. Dans la classification linéenne, l'homme est au départ un genre-espèce, c'est-à-dire c'est à la fois un genre et une espèce, hein, homo, donc un genre avec une espèce unique, et ensuite il a des variétés. Et si vous lisez ça un peu rapidement, Et avec un regard d'aujourd'hui, vous dites, ah, ces variétés, c'est l'équivalent des races. Parce que la première variété, c'est l'homme noir qui vit en Afrique. La deuxième variété, c'est l'homme jaune qui vit en Asie. La troisième variété, enfin, je pourrais les lister. Donc, les quatre premières variétés correspondent à la fois à des questions de couleur, de continent, etc. Mais ce qui est très important à noter, c'est que, en fait, Linné s'arrête pas là. Il ajoute deux autres variétés, l'homme monstrueux, qui est la collection de tout un ensemble de phénomènes monstrueux à travers le monde.
Qui habitent dans les montagnes, c'est
qui
ça?
Qui vivent, ça peut être les crétins des Alpes, par exemple, mais ça peut être aussi des gens qui déforment leur crâne, comme par exemple les Aztèques le faisaient, ou ou dans d'autres endroits d'ailleurs. Et d'un autre côté, les hommes sauvages, qui là aussi est la collection de l'ensemble des hommes sauvages qu'on a retrouvés dans les forêts à travers la planète, comme plus tard Victor d'Alveyron, par exemple. Oui. Bon. Et vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien généalogique entre ces êtres-là. Ils se transmettent pas leur caractère à travers les générations. Et en fait, ce que ça fait apparaître, c'est que en fait, Linné, lui, reste dans un système où il y a d'un côté la variété et de l'autre côté l'espèce. Lorsqu'il identifie quelque chose qui est stable et qui ne varie pas, il n'a aucune difficulté d'ailleurs à dire qu'on a affaire à une différence d'espèce. Et d'ailleurs, à partir de sa 10e édition, il va admettre l'idée sur laquelle il y a deux espèces d'hommes. Bon.
Là-dessus, Buffon, du coup, avec son histoire naturelle, lui va intercaler cette notion de race entre cette idée d'espèce et cette idée de variété. Comment se sert-il de cette idée de race pour développer son idée scientifique?
Alors, en fait, il faudrait dire Buffon puis tout l'ensemble d'autres auteurs. Certains connus, comme par exemple Kant, certains moins connus, comme par exemple Duchesne dans le cas des plantes, sont des gens qui vont se poser une question qui est, en gros, que faire si on a tout un ensemble de variétés qui se transmettent de manière héréditaire, c'est-à-dire qui semblent être relativement stables, c'est-à-dire qu'elles perdurent à travers les générations.
Quel exemple, par exemple, de variété?
Alors, les modèles qui vont être pris vont être soit des modèles du côté de l'élevage, où on a des exemples, alors qui sont en plus très problématiques en un certain sens, et Duchesne le pose très bien, c'est... Dans le cas de l'élevage, ou par exemple de l'agronomie, Duchesne a créé des nouvelles formes de fraisiers. Ces formes se transmettent de manière héréditaire et constante. Alors, faut-il les qualifier d'espèces? Si c'est des variétés, c'est des variétés un peu bizarres, parce qu'elles ont la propriété de la constance. Et donc, il dit, en fait, non, ce sont des variétés constantes, des variétés héréditaires. Et il propose d'utiliser un terme pour qualifier ça, celui que avait déjà proposé Buffon avant, qui est celui de race. Bon, dans le cas de Buffon, les exemples qu'il peut prendre peuvent être aussi des exemples inspirés d'un champ qui, lui, est très travaillé, qui est le champ, on va dire, des questions médicales, de tout un ensemble de maladies qui se transmettent de manière héréditaire. Et il envisage, comme tout un ensemble d'autres auteurs à son époque, que peut-être, par exemple, la couleur des noirs serait en fait une sorte de maladie de la peau, mais qui s'est fixée progressivement à travers l'hérédité. Voyez ? Et donc, dans toutes ces situations, en fait, l'idée, c'est de dire il y a une catégorie dont on a besoin pour décrire des variétés d'un genre particulier qui sont celles qui se transmettent à travers l'hérédité et qui fondent des lignées constantes. Mmh. Des lignées constantes qui vont permettre... Ensuite, d'ailleurs, de faire des classifications, parce que pour classer, il faut que ce soit relativement stable. Bon. Et en fait, on aurait parfaitement pu dire, en fait, c'est des espèces différentes. Et donc, il y a des auteurs qui le disent. Par exemple, Voltaire va dire, non, c'est des espèces. On a affaire à différentes espèces. C'est stable, c'est différentes espèces. Mais dire que ce sont des espèces différentes, ça pose... plusieurs types de problèmes. Dans le cas de l'homme en particulier, ça laisserait entendre que ces espèces ont été créées dès l'origine. Et donc, en fait, qu'on serait dans une situation où il y aurait plusieurs espèces d'hommes.
On serait dans une situation de polygénisme.
Ce qu'on appellera plus tard le polygénisme, qui réunit des positions très divergentes, mais effectivement, qu'on appellera plus tard le polygénisme. Il y a plusieurs espèces d'hommes. Bon, très bien. Ce qui évidemment pose des problèmes, alors, à la fois d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue scientifique, puisque d'un autre côté, ces différents groupes sont capables de se reproduire entre eux de manière continue, donc il semble bien qu'ils constituent la même espèce, en fait. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Deuxième point, et qui est très sensible avec le cas de Duchesne, c'est, attendez, si je sais que j'ai moi-même créé, à travers l'agriculture, quelque chose qui ensuite est susceptible de se reproduire de manière stable, cela voudrait-il dire que je peux créer des espèces ? Si je peux créer des espèces, ça remet en cause de manière sérieuse le principe de stabilité des espèces, un principe qui est fondamental. Et donc, en fait, des auteurs, et il faut vraiment toujours avoir en tête qu'on n'est pas simplement en train de parler de la question des races humaines, hein, parce que la question sur les races, elle ne se pose pas que du côté des races humaines à l'époque, hein, c'est un concept qui est mobilisé dans le champ de l'élevage, enfin dans le champ des animaux, dans le champ des végétaux,
le grand champ du vivant,
et dans le champ du vivant, effectivement, ouais, au sens large, et donc des auteurs vont dire, ben, en fait, on a besoin d'un concept intermédiaire qui est effectivement quelque chose qui, sans remettre l'unité de l'espèce en cause, permet de penser une transmission héréditaire et constante d'un certain nombre de caractères, et ce seront les races.
Et c'est là qu'on en vient finalement à cette idée qu'il faut retenir, c'est que cette idée de race est consubstantielle et capitale, est un socle pour les théories de l'évolution qui se développent tout au long du 19e siècle, que ce soit celle de Lamarck ou celle de Darwin. D'ailleurs, le titre de L'origine des espèces complet, c'est L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Donc ça, il faut bien sûr le rappeler, c'est un socle scientifique pour ces penseurs de l'évolution.
Alors ça, évidemment, ça peut paraître un peu bizarre quand on y pense, parce qu'on associe la notion de race à tout un ensemble d'autres côtés particulièrement obscurs et problématiques. Mais effectivement, ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire la manière dont on va redéfinir l'histoire naturelle à travers la problématique de la généalogie et des rapports de parenté, c'est évidemment un élément qui va être essentiel, y compris ensuite pour penser l'évolutionnisme darwinien à proprement parler. Bon. L'idée étant de dire, chez Darwin c'est très clair, hein, ben finalement, qu'est-ce que sont les espèces ? Ce sont des races, c'est-à-dire des variations qui se transmettent héréditairement et qui, à un certain moment, se fixent relativement, d'ailleurs. Hein, et dans le cas de... Ce qui veut dire, pour dire les choses avec un autre langage, que le processus de spéciation, la création, l'apparition de nouvelles espèces, passe par un processus de raciation, d'abord. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, y compris dans tout ce qu'on appelle la synthèse moderne, hein, des auteurs comme, par exemple, Dobzhansky, qui est un grand nom de la synthèse moderne au XXe siècle, utilise la notion de race dans ce cadre-là, hein, pour penser, en fait, des processus qui sont des processus de définition d'une population qui, ensuite, pourrait évoluer vers une espèce. Bon. Dans le cas de Lamarck, c'est un peu différent, mais effectivement, Lamarck dit un peu la même chose, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on prend pour des espèces sans histoire, en fait, il est fort probable que ce soit des races, mais qui se maintiennent comme telles parce que les conditions et l'environnement changent trop lentement pour que nous, on s'en aperçoive. Bon. Ce qui est, vous le noterez, un paradoxe, c'est-à-dire que la notion de race, qui était censée au départ jouer un rôle pour défendre à la fois l'unité de l'espèce et la stabilité de l'espèce, va aboutir à défaire à la fois l'unité et la stabilité de l'espèce.
Alors Claude-Olivier Doron, vous évoquez quand même ce fait qui est important et dont on va parler dans un instant, cette dimension problématique aussi du concept de race. Alors pour comprendre comment cette biologisation de la notion de race va conduire à la distinction puis à la hiérarchisation des races humaines au 19e siècle, je vous propose l'écoute de notre archive du jour. Aujourd'hui, on est allé du côté du cinéma et du film La Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche, qui est sorti en salle en 2010. Ce film raconte l'histoire de Sao Chi Bartman, donc surnommée à l'époque la Vénus Noire ou la Vénus Hottentote, une femme venue du Cap en Afrique du Sud et qui était exhibée pour ses attributs physiques et détenue dans des conditions sordides. À sa mort en 1815, elle fut disséquée par le célèbre anatomiste Georges Cuvier. Et peu de temps après, Cuvier prononça devant l'Académie de médecine une conférence où il s'attardait sur les moindres détails de sa morphologie. C'est de cette conférence qu'est tiré le passage que nous allons écouter, et Georges Cuvier est interprété ici par François Martouret.
La tête offre des moyens plus sûrs de distinction parce qu'on l'a mieux étudiée. C'est d'après elle que l'on a toujours classé les nations. Et à cet égard, notre Boschimann offre des différences très remarquables et très singulières. Sa tête osseuse, comme sa figure extérieure, présente une combinaison frappante des traits du nègre et de ceux du kalmouk. Le nègre, comme on sait, a le museau saillant et la face... et le crâne comprimé par les côtés. Le kalmouk a le museau plat et la face élargie. Notre Boschimann a le museau plus saillant que le nègre, la face plus élargie que le kalmouk, et les os du nez plus petits que l'un et l'autre. À ce dernier égard, surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne. Ce qui est bien constaté dès à présent, et ce qu'il est nécessaire de redire, Tant d'erreurs contraires se propagent dans les ouvrages les plus nouveaux, c'est que ni ces Galas, ni ces Boshiman, ni aucune race de nègres n'a donné naissance au peuple célèbre qui a établi la civilisation dans l'antique Égypte, et duquel on peut dire que le monde entier a hérité des principes des lois, des sciences et peut-être même de la religion. Je présente ici une tête de momie pour que l'Académie puisse en faire la comparaison avec celle d'Européens, de Nègres et de Hottentots. Je vous en prie. Aujourd'hui que l'on distingue les races par le squelette de la tête et que l'on possède tant de corps d'anciens Égyptiens momifiés, il est aisé de s'assurer que quel qu'ait été leur teint, ils appartenaient à la même race d'hommes que nous, qu'ils avaient le crâne et le cerveau aussi volumineux, qu'en un mot, ils ne faisaient pas exception à cette loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé.
Voilà Claude-Olivier Doron, le personnage de Georges Cuvier, personnage notoire dans l'histoire des sciences, qui là fait son exposé devant l'Académie de médecine en exposant effectivement cette idée déjà de hiérarchisation des races par des critères morphologiques. Ça, c'était quelque chose d'assez courant à partir du moment où cette notion de race arrive dans cette étude scientifique.
Oui, en fait, très vite, dans le cas des races humaines, au départ, on part de la couleur comme un critère qui se transmet de manière théoriquement infaillible, héréditairement, mais en fait, très vite, on s'aperçoit que ça marche pas très bien. Et on va beaucoup se concentrer à la fin du XVIIIe siècle sur les formes du crâne. Et Cuvier, d'ailleurs, en est l'un des responsables avec d'autres, en particulier avec le développement de ce qu'on appelle l'angle facial. L'angle facial qui est d'abord proposé par quelqu'un qui s'appelle Camper, mais que Cuvier auquel Cuvier va attribuer une valeur particulière parce que il va estimer que à travers l'observation de l'angle que fait deux lignes par rapport à votre crâne, on peut évaluer non simplement vos caractères physiques, mais en déduire des capacités intellectuelles et morales. Et ça, c'est un point qu'on entendait sur la fin, hein, c'est-à-dire que il prétend en déduire le fait que en fait, les propriétés physiologiques des races induisent des capacités intellectuelles et morales différentes et une capacité d'accès différent à la civilisation. Quelque chose qui va vraiment jouer un rôle essentiel en termes de hiérarchisation au cours du 19e et du 20e siècle. Ça se recentre effectivement sur la morphologie crânienne tout au long du 19e siècle. La science des races, c'est d'abord une science des crânes, hein, aussi du squelette, parfois aussi de quelques autres éléments. À partir du début du 20e siècle, on va aussi beaucoup se concentrer sur les groupes sanguins. Mm-hmm. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'on n'a pas le temps, donc je passe.
On fera une autre émission, voilà. bien sûr là-dessus. Mais ce qui, moi, m'intrigue, me questionne, c'est le glissement, en fait, d'une idée, d'un concept scientifique. Et sa réutilisation à des fins, là pour le coup, plus d'ordre, on va dire, idéologique, pour le dire de façon très très large. Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'il y a des exemples similaires dans l'histoire des sciences d'un concept comme ça qui va être un peu extrait de son origine pour ensuite être réutilisé à d'autres escients?
Si j'étais méchant, je dirais que le problème principal, c'est qu'en réalité, on peut pas séparer les deux. Et que la science des races, telle qu'elle se développe, elle est d'emblée avec ses fonctions, immédiatement, en fait. Hein. Et on le voit bien, Cuvier n'est pas n'importe quel scientifique de l'époque. Bon, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit aussi dans un moment spécifique où en fait on repense les hiérarchies sociales au nom des différences de capacités naturelles, dans un ordre qui est un ordre libéral, si vous voulez, même dans une situation d'égalité de droit. Ce qui ensuite est posé comme question, c'est la question des inégalités naturelles. Et en un certain sens, vous avez des auteurs libéraux qui le disent explicitement, hein, finalement l'égalité des droits permet la libre expression des inégalités naturelles. Et se pose immédiatement cette question, est-ce que certaines inégalités naturelles se transmettent à travers les générations? Et c'est là que le savoir des races va rentrer en ligne de compte en disant, ben oui, en fait, les différentes races ne sont pas capables de la même manière de progresser et d'accéder à la civilisation. Ce qui est très caractéristique pour fonder des dispositifs de domination à la fois au niveau colonial, y compris, il faut le dire, à l'intérieur du territoire européen même. Hein, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Donc, il y a cette dimension. Alors, le point sur lequel peut-être on peut insister, c'est que cette dimension est absolument incontestable et En même temps, il faut avoir en tête que la notion de race et la science des races qui se développe à cette période a une valeur complexe, parce que souvent les mêmes auteurs, ceux qui procèdent d'ailleurs à des hiérarchisations et justifient des dominations, notamment de l'Europe sur tout l'ensemble d'autres populations, vont mobiliser la notion de race dans une stratégie qui est une stratégie qu'on pourrait presque penser comme inverse, c'est-à-dire de revendication et de lutte contre des dominations. En particulier en Europe, il faut toujours penser qu'on est dans les années 1815-1820, dans un moment de reconstruction de l'Europe, après le congrès de Vienne en particulier, et il y a tout un ensemble de populations qui estiment ne pas avoir de reconnaissance politique, alors que elles existent, hein. Ça va être, alors évidemment, les Germains, ça va être les Slaves, ça va être aussi les Celtes, il va y avoir une mobilisation de la catégorie de race, des savoirs sur la race, pour fonder ces identités profondes, en fait, dont on nie l'existence politique. Et dans ce cas-là, la notion de race va servir aussi pour, un peu comme un étendard, hein, pour porter des luttes qui vont aboutir d'ailleurs, il faut le dire, dans un certain nombre de cas, à des guerres, et à des guerres assez sanglantes.
À des guerres sanglantes, bon, après on peut difficilement, en quelques minutes, faire le raccourci Buffon, l'Allemagne nazie et la race aryenne,
mais non, pas du tout.
C'est quand même très très compliqué de faire ce genre de raccourci. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que au nom de la supériorité de la race aryenne, voilà, les idéologues nazis justifient de l'existence de cette guerre et de ces massacres. Est-ce que la notion, pour qu'on conclure Claude-Olivier Doron, de race disparaît après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on s'en défait parce que justement on se rend compte de l'impasse et de l'impasse gravissime dans laquelle elle nous a conduit?
Non, là la réponse, il faut être assez clair, notamment dans le champ de la biologie et de la génétique, la notion de race ne disparaît pas comme par miracle après 1945. Au contraire d'ailleurs, la génétique des populations, va d'abord affirmer le fait qu'elle peut proposer, elle, enfin, une définition scientifique de la race. Évidemment, par contre, ce qu'on va avoir comme argument, c'est de dire, il faut distinguer entre les usages scientifiques et les dévoiements qui ont été faits par les idéologies politiques. C'est toute la stratégie de l'UNESCO, si vous voulez, dans l'immédiate après-guerre, d'ailleurs. Et un argument qui va perdurer, en fait, jusque dans les années 1970. Et c'est globalement plutôt dans les années 70 que on va vraiment se lancer dans une critique assez radicale de la catégorie de race elle-même, y compris dans le champ de la génétique des populations, en montrant qu'en fait, c'est une catégorie qui pose énormément de problèmes parce qu'elle ne décrit pas de manière adéquate la complexité des variations au niveau humain.
Merci beaucoup Claude-Olivier Doron d'être venu nous éclairer sur cette histoire du concept de race. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Champvallon, L'homme altéré, race et dégénérescence, 17e-19e siècle. Merci encore.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my
think I'm able to carry on. It's been a long...
C'est trop cruel de couper Change is Gonna Come par Sam Cooke dans Science Chrono sur France Culture. Désolé Florent Bugeon, on est obligé d'avancer après notre premier temps dédié à l'histoire des sciences. On en vient désormais au second temps de notre émission et on va partir très loin dans le passé des hominidés.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les gorges d'Olduvai en Tanzanie ont encore livré de précieux indices concernant nos très lointains ancêtres. Sur le site sobrement baptisé T69, une équipe de chercheurs a fait la découverte de 27 outils taillés dans des os d'animaux, des outils vieux d'1,5 million d'années. Comment interpréter cette découverte qui repousse d'un million d'années nos connaissances sur la fabrication systématisée d'outils en os? Quelles étaient les fonctions de ces outils et que nous disent-ils sur les capacités cognitives de nos lointains ancêtres? Pour répondre à ces questions et aux autres, nous avons le plaisir d'être en duplex aujourd'hui depuis les studios d'Issy Gironde avec l'un des co-auteurs de l'étude, paru le 5 mars dans la revue Nature, qui fait état de cette découverte. Bonjour Luc Doyon.
Bonjour Monsieur Beauchamp.
Vous êtes chercheur en archéologie au sein du laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette très belle découverte qui nous pose, je le disais, tout un tas de questions importantes. Alors avant de décrire en détail ces objets et la façon dont vous les avez étudiés, j'aimerais que vous nous présentiez cette région qui est capitale dans l'histoire de la paléoanthropologie, ces gorges d'Olduvai. Déjà, est-ce que vous pourriez nous les décrire de façon un peu par le paysage? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on est dans ces gorges-là et à quoi ressemblait le paysage de ces mêmes gorges il y a 1,5 million d'années par comparaison?
Je pense qu'il faut faire travailler un peu son imaginaire. On a tous vu les safaris, les savanes africaines. Les gorges d'Olduvai, en fait, ça fait partie de la branche orientale de la vallée du Grand Rift, dans la partie orientale de l'Afrique. C'est au bord de la plaine du Serengeti, donc dans l'aire de conservation du Ngorongoro. C'est une plaine... une paléoplaine en fait qui est découpée par de très grandes gorges en fait qui peuvent atteindre une hauteur parfois jusqu'à 90 mètres de hauteur et donc c'est marqué par des climats en fait un aller-retour entre des périodes de sécheresse et de périodes plus tempérées, plus humides où la végétation elle repousse de façon spectaculaire sur une base annuelle. Si on recule dans le temps, en fait, il faut savoir que c'était à la base dans la plaine qui était un lac. Plutôt, il y a des fossiles, des biomarqueurs de fossiles moléculaires qui suggèrent en fait que c'était plutôt un paysage d'oasis actif sur le plan géothermique, déjà vers 1,7 million d'années. Et donc, on peut imaginer un paysage en mosaïque, un écosystème très très riche avec une grande biodiversité, des rivières qui étaient alimentées certainement par des eaux souterraines, mais aussi des plantes aquatiques, des plantes comestibles et évidemment plusieurs animaux iconiques des savanes, si on peut y penser, par exemple l'éléphant, l'hippopotame, les grands bovidés et ainsi de suite.
On doit faire aussi, Luc Doyon, on doit faire aussi un peu d'histoire de la paléoanthropologie pour comprendre et rappeler l'importance de cette région du monde pour la connaissance de nos origines. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de cette importance qu'a la région des gorges de l'Olduvai dans l'histoire de la paléoanthropologie? Anthropologique, est-ce qu'on y a trouvé? Quelles ont été les découvertes clés dans cette région?
C'est un des plus importants complexes de sites préhistoriques d'Afrique qui a livré des témoignages d'occupation humaine vers 2 millions à partir de 2 millions d'années à peu près, plus ou moins jusqu'à 400 000 ans avant le présent. C'est une région qui a été très investie par des chercheurs très connus, très influents dans le paysage de la paléoanthropologie. Je pense notamment à Marie et Louis Leakey, qui ont fait plusieurs découvertes. Olduvai, en termes d'humanité, a livré plusieurs restes humains. Et c'est là où on a pu identifier certaines espèces de notre lignée, par exemple... Paranthropus boissei autour de 1959. Dans les années 60 aussi, on a eu Homo habilis aussi, donc Homo ergaster, donc plusieurs espèces. Et c'est aussi une localité qui a donné son nom à une culture lithique, donc une façon de tailler, de travailler la pierre, que l'on appelle l'Oldowaye.
On y reviendra bien sûr tout à l'heure. On va maintenant se pencher sur ce site T69. Pourriez-vous nous le décrire? Ça représente quelle surface? Comment il est situé? À quoi il ressemble?
T69 fait partie de cette gorge. On parle de, en fait, c'est un travail qui a été fait mené par des collègues espagnols, Ignacio de la Torre et Nicolas Jao, qui ont tous les deux, en fait, Jackson Jao, pardon, qui ont tous les deux dirigé les fouilles depuis 2015, de 2015 à 2022, donc pendant 8 ans. Ça a commencé par une tranchée, la tranchée T69. Ça s'est étendu sur 8 tranchées supplémentaires qui ont été jointes au final, au fil des années de fouilles. Et donc, ça représente une surface de plus de 300 mètres carrés, avec une profondeur qui dépasse les 20 mètres par endroit, et avec un niveau principal et quelques vestiges supplémentaires, en fait, dans les couches supérieures. Mais ce dont on va parler aujourd'hui provient du niveau principal.
Alors, ce niveau principal, comment on a fait pour le dater? Quelles méthodes ont été employées pour donner cet âge très ancien à ces outils dont on va parler dans un instant?
Donc, on a utilisé deux méthodes. Une première méthode, en fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est quand les gorges d'Oldowaye se sont formées, en fait, comme c'était un lac, il y avait une sédimentation importante et assez rapide. Mais c'est aussi près d'une zone d'activité volcanique. C'est dans une zone d'activité volcanique. Et en fait, il y a eu plusieurs couches de cendres, en fait, qui se sont déposées au fil des années. Donc, on a évidemment daté ces couches de cendres puisqu'elles nous permettent de produire des datations qui sont très précises. Mais on a pris aussi certains outils en quartz et en quartzite qui proviennent de la couche et on a calculé des ratios d'isotopes cosmogéniques. Ça, ce sont des isotopes en fait qui dont leur noyau a été modifié par justement l'effet des radiations par des rayons cosmiques. Et donc on a étudié des ratios de beryllium et d'aluminium, ce qui nous a donné une date pour ces outils-là à 1,5 million d'années à peu près. Et donc, ce que ça nous indique, en fait, ça nous indique qu'ils n'ont plus eu accès au soleil, au rayonnement du soleil, à partir de 1,5 million d'années. Et ça, c'était une date qui était complètement cohérente avec celle qui avait été obtenue sur les couches de cendres volcaniques qui sont situées au-dessus et en dessous de cette couche.
Alors, on en vient à ces 27 outils en os datés d'1,5 million d'années. Donc, ce site T69, il a livré bien des objets, bien des artefacts, mais on va se concentrer sur ces 27 outils en os. Luc Doyon, ils ressemblent à quoi ces outils si on devait en faire le portrait robot?
Ça ressemble à des bouts d'os. C'est des bouts d'os longs. Pour être honnête avec vous, la plupart des gens ne considéreraient pas ça comme étant des outils, mais c'en est bel et bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un os, c'est constitué de deux épiphyses qui sont connectées dans les connexions anatomiques avec les autres éléments squelettiques. Mais il y a la partie centrale qui est le plus souvent vide chez les herbivores, qu'on appelle la diaphyse. Et donc, ce sont des fragments de diaphyse principalement d'éléphants et d'hippopotames qui ont été utilisés, qui ont été sélectionnés puis transformés en les taillant par percussion directe. Il y a aussi une petite minorité d'autres taxons qui ont été utilisés pour ces outils-là, notamment quelques bovidés de taille assez importante quand même.
Alors quand on trouve 27 outils en os datés d'1,5 million d'années, est-ce qu'on se pose tout de suite la question de savoir s'ils ont été fabriqués sur place ou s'ils ont été transportés?
On se pose tout d'abord la question à savoir est-ce qu'ils ont été modifiés de façon intentionnelle. Et ensuite, on regardera en fait les états de surface pour voir si ces modifications, si on peut statuer sur l'intentionnalité des modifications, si ces modifications ont été faites à l'état, alors que l'os était à l'état frais, ou s'il avait été soumis à une intempérisation, par exemple, être soumis au vent ou à l'abrasion par le sable et ainsi de suite.
Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'affirmer avec certitude qu'il y a une réelle intentionnalité derrière la fabrication de ces outils et que ces outils ne sont pas utilisés de façon opportuniste, que d'une certaine façon on n'a pas trouvé un os brisé et qu'on s'en est servi pour d'autres fonctions.
On met habituellement en œuvre ce qu'on appelle de l'expérimentation, donc l'archéologie expérimentale et de la néotaphonomie expérimentale également. L'archéologie expérimentale consiste à reproduire des gestes qui sont susceptibles d'avoir été produits par les humanités qui nous ont précédés pour essayer de comprendre d'une part quelles sont les propriétés de la matière première, comment elle réagit par exemple à un geste particulier. Donc ça a été fait. On a mis en œuvre des études expérimentales. Il y en avait déjà qui avaient été effectuées par un des collègues co-auteurs du papier Francesco De Rico et Lucinda Backwell au début des années 2000 sur des os d'éléphants. Et moi, j'ai aussi produit ce type d'expérimentation dans le cadre de mes travaux sur des os de cheval, de bovidés, de cervidés également. Et donc, l'objectif de cette expérimentation, c'est de fracturer l'os avec des bouts de galets, par exemple, pour exposer la moelle, qui est un comportement, par exemple, associé, par exemple, plutôt avec une pratique alimentaire. Mmh. Et donc, en faisant ça, on obtient des fragments de diaphyse. Sur ces fragments de diaphyse, il peut y avoir des enlèvements. On essaie de caractériser justement le type de fracture, la fréquence de ces enlèvements, leur taille, leur disposition relative. Et par la suite, cela nous permet de comparer ce corpus expérimental à ce que l'on retrouve sur le site archéologique. Du moment où on retrouve, par exemple, des séries d'enlèvements qui sont supérieures à celles qui sont produites expérimentalement pour accéder à la moelle, on peut supposer à partir de là une intentionnalité. Et ça, c'est d'autant plus avéré lorsque la disposition relative de ces éclats, en fait, de ces négatifs d'enlèvement, sont contigus avec un nombre supérieur à 6 et par exemple sur un bord.
D'accord.
Et donc, ça, c'est ce qui nous a permis d'identifier ces outils.
Donc, Luc Doyon, une fois qu'on a identifié que c'était, enfin, qu'on a certifié que c'était bien des outils, je posais la question tout à l'heure de savoir si c'était des outils qui avaient été fabriqués sur place ou bien si c'était d'une certaine façon une caisse à outils qui était restée là et qui avait été transportée par les individus qui avaient fabriqué ces outils. Est-ce qu'on a des éléments d'information là-dessus sur ce déplacement ou non des outils?
Oui, tout à fait. En fait, l'étude technologique d'un outillage en os s'est menée en parallèle avec ce qu'on appelle des études zooarchéologiques, c'est-à-dire qu'on identifie les espèces qui sont représentées dans l'assemblage faunique, ainsi que les éléments. Et ce qu'on a pu constater à T69, c'est que on a une majorité de restes d'hippopotames et très très peu d'éléphants. Et sur les restes d'hippopotames, il y a des traces qui attestent en fait d'activité de boucherie par les visiteurs à ce site. Ça nous a en fait un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléphants. Donc, on s'est intéressé à l'état des surfaces, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces états de surface, ils n'étaient pas aussi frais, en fait, que les os d'hippopotame. Donc, les os d'hippopotame, visiblement, ils ont, les outils faits sur os d'hippopotame ont visiblement été faits sur le site. Or, c'était pas le cas pour les outils en os d'éléphant. Et ça nous laisse suggérer, en fait, qu'à un moment, lors de leur déplacement sur le territoire qu'ils occupaient, ces groupes humains ont certainement rencontré une carcasse d'éléphant, mm-hmm. Et ont sélectionné les ossements qui auraient pu leur être utiles, les ont fracturés, et en soi, rapporter les fragments de diaphyse d'osselon d'éléphant sur le site T69, où ils ont façonné des outils au préalable pour apporter ces outils sur le site de T69.
Ce qui témoigne d'une capacité certaine cognitive, et on y reviendra bien sûr, Luc Doyon, mais pour continuer dans la description de ces outils, est-ce qu'on a une idée de leur fonction exacte? C'est pas facile, j'imagine, quand on a affaire à un os qui ressemble à un os, comme vous le disiez, qui a 1,5 million d'années, mais tout de même, est-ce qu'on peut juger de leur fonction ou pas?
Oui, on peut juger de leur fonction. Alors, on fait ça de deux façons différentes, en regardant des indices d'usure plutôt macro ou microscopiques, dépendamment de l'état de conservation des objets. Malheureusement, à Old Uvai, il n'a pas été possible en fait de mettre en œuvre une analyse microscopique poussée, tout simplement parce que les os avaient subi des altérations, ce qui est totalement normal au cours de leur fossilisation, au cours des 1,5 million d'années qui nous précèdent. Mmh. Or, quand on regarde les fractures qu'on interprète comme étant des fractures d'utilisation, ces fractures suggèrent des comportements, disons une action de percussion et de compression. Et donc, il serait tout à fait logique, étant donné la forme des outils, que ces outils aient servi peut-être dans les activités de boucherie, par exemple, pour comme levier pour la désarticulation des membres d'animaux qui font plus de 2 tonnes.
À l'époque, il y a 1,5 million d'années, on se servait déjà d'outils en pierre depuis bien longtemps, depuis bien plus d'un million d'années. Comment expliquer du coup cette concomitance d'existence d'outils en os et d'outils en pierre, et quels avantages conférerait l'os par rapport à la pierre ?
Déjà, un des avantages de l'os, c'est qu'il est disponible assez facilement en l'intégrant, en fait, en intégrant sa sélection dans les activités de boucherie. Donc, puisque visiblement les populations préhistoriques savaient qu'il y avait des carcasses, donc c'était une matière qui était quand même relativement accessible, soit sur le site ou à proximité du site. On s'est amusé quand même à regarder, en fait, sur le plan morphométrique et sur au niveau du poids, à faire une comparaison entre les outils en pierre. Et donc, on a constaté que on a produit des outils en os qui avaient des largeurs similaires et des poids similaires aux outils en pierre, mais qui étaient beaucoup plus allongés. Mmh. Et donc, on voit plutôt une complémentarité entre les deux aspects de la culture matérielle pour faire justement les activités de traitement des carcasses et de boucherie, selon moi.
Alors, j'ai insisté, Luc Doyen, sur le fait qu'on a trouvé 27 outils en os dans ces gorges d'Old Uvai datés d'il y a 1,5 million d'années. Pourquoi le fait que ce soit pas 27 outils en os, pourquoi cette multiplicité est à la fois la grande surprise et la grande nouveauté de cette découverte?
Alors, la nouveauté, on va commencer par la surprise. Disons que il faut garder à l'esprit ce que l'on connaissait avant de faire cette étude. On savait qu'il y avait des outils en os qui avaient été taillés, qui dataient de plus de 2 millions d'années dans cette région. Le seul problème, c'est que la majorité de ces outils avaient été trouvés soit hors contexte ou dans des contextes sur la surface des sédiments, ou pour lesquels, le contexte archéologique nécessitait d'être précisé davantage. Donc c'était plutôt des trucs isolés, et on pensait jusqu'à présent que c'était le reflet d'un comportement plutôt opportuniste qui était relativement rare et mis en œuvre de façon très 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 opportuniste. Le fait d'en trouver 27 dans une même couche, c'est quand même impressionnant. Là, en fait, on a une standardisation de la forme, on a une sélection des éléments squelettiques qui est très marquée. On recherche plutôt les fémurs, les tibias des éléphants et des hippopotames. On les transforme toujours de la même façon, c'est-à-dire en faisant un bout qui est plutôt appointé, très robuste, un autre bout qui est plutôt en forme de demi-lune. Mmh. Et avec une encoche au centre qui est très prononcée, visiblement pour l'appréhension. Et donc, le fait de retrouver cette forme d'outil de façon répétée dans une même couche, ça suggère en fait une production qui est systématique. Le fait d'avoir aussi certains de ces outils qui proviennent d'ailleurs, notamment les outils qui ont été faits sur fragments de diaphyse d'éléphant, suggère, comme vous en avez discuté un tout petit peu tout à l'heure, des capacités de prévision sur le long terme. Et donc, on est vraiment dans quelque chose, une production qui est systématique et presque standardisée si on prend le terme standardisé au sens très large.
Oui, c'est pas le travail à la chaîne encore.
Aussi, Oui, tout à fait. Ce qu'on savait aussi, on n'était pas dans le Fordisme en effet, mais ce qu'on savait aussi, alors c'est justement sur la production d'outils standardisés où ça devient un peu plus intriguant. En fait, on savait qu'il y avait des productions d'outils en os, par exemple dans le Lazio, près de Rome en Italie, dès 500 000 ans jusqu'à 250 000 ans à peu près, où on produit des bifaces en os qui ressemblent en tout point aux équivalents, aux bifaces lithiques. Et donc du coup, on se demandait, on croyait que cette production de bifaces standardisées, c'était quelque chose qui avait émergé en Europe autour de 500 000 ans avant le présent.
Mmh. Donc ça repousse là d'un million d'années.
Découverte repousse d'un million d'années en fait ce comportement.
Et l'aspect aussi tout aussi passionnant de cette découverte, vous le disiez, c'est la partie invisible de ces objets, c'est-à-dire ce que ça suggère en termes de capacité cognitive, la capacité de projection, de prévision, mais aussi ça pose la question de la transmission d'un savoir. Est-ce que là-dessus vous avez des éléments à nous apporter à partir de cette découverte ?
Tout à fait. En fait, le fait de retrouver ces formes, en fait, qui sont très standardisées, en effet, implique un savoir, parce qu'on peut pas assumer que tous ces outils ont été faits au même moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est les méthodes, les moyens techniques qui ont été mis en œuvre pour transformer justement cette matière première qui est l'os, pour en créer des outils. Et donc là, on voit quelque chose d'assez intéressant. On voit une convergence entre les moyens mis en œuvre pour tailler la pierre, pour fabriquer des outils en pierre taillée, et les pratiques bouchères, notamment la fracturation de l'os pour accéder à la moelle. Et donc cette convergence, en fait, semble avoir facilité un transfert de compétences et de connaissances pour justement produire cet outillage en os.
Mais alors là, la question qui brûle les lèvres, c'est qui a fabriqué ces outils et quelle espèce d'hominidée avait ces capacités de projection et de transmission d'un savoir ? Est-ce que là-dessus, on a un gros point d'interrogation ?
Oui. Il y a un gros point d'interrogation et je pense qu'il va rester là pour un petit moment et c'est pour ça qu'il faut faire plus de recherches. Alors, je suis plutôt des sceptiques, c'est si on n'a pas de fossiles humains, je me dis plutôt, si on n'a pas de fossiles humains, c'est très difficile pour ces périodes-là, de fossiles humains en association, c'est très difficile, cette période-là, d'associer ce comportement à une espèce en particulier.
Alors, est-ce que des travaux de fouilles sont conduits actuellement pour justement trouver des fossiles humains qui seraient associés à cette tranchée T69?
Tout à fait. Il y a des travaux en cours. Mais on sait par contre que dans la région, il y avait deux espèces a priori qui vivaient là. Donc Paranthropus boisséi et Homo erectus. Je pense que c'est par péché de bonne conscience qu'on a tendance à associer ça plutôt à Homo erectus. Mais je préférerais attendre la présence de restes humains pour statuer là-dessus.
La question de savoir qui a fabriqué ces objets en os datant d'il y a 1,5 million d'années n'est pas la seule grande question que soulève cette découverte. Comme toujours, quand on fait une découverte, eh bien, il y a plein de questions qui arrivent et c'est ça qui est chouette dans les sciences. Alors, quelles autres grandes questions soulèvent cette découverte-là ?
Le fait qu'on soit dans une production qui est très systématique, presque standardisée, ça suggère en fait qu'on soit en présence d'une tradition. Et donc, dès qu'on parle de tradition technologique, la première question qui vient à l'esprit, c'est quelle est son origine et comment s'est-elle développée, cette tradition, au fil des années. Et donc ça, c'est une question sur laquelle je travaille dans le cadre d'un projet européen financé par le Conseil de recherche européen. C'est le projet IRC Exostech qui s'intéresse à essayer de développer des méthodes qui permettent de mieux comprendre quelle était la fonction de ces outils dans les systèmes techniques, comment cette fonction elle a évolué. Donc il y a des travaux qui sont en cours, notamment dans le cadre de collaboration avec des collègues français mais aussi éthiopiens et chinois pour voir en fait pour essayer de retracer l'origine de ce type de comportement entre 1,8 million d'années et 60 000 ans avant le présent. Et ces recherches seront effectuées en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Asie de l'Est et en Europe.
Et en Asie de l'Est, du coup, est-ce qu'on retrouve des sites à peu près similaires ? Quelles sont les différences et les points communs qu'on va pouvoir établir là ?
Alors, c'est très intéressant l'Asie de l'Est parce que c'est un terrain qui est en plein boom de recherche. Il y a vraiment, c'est une explosion de recherche archéologique à cet endroit actuellement. Et donc, on a de plus en plus de très vieux sites qui dépassent les 1 million d'années où on retrouve des technologies un peu similaires. Et ça pose un peu la question de la convergence technologique. À quel point est-ce que cette capacité ou cette reconnaissance du potentiel technologique des matières osseuses est quelque chose qui a été apporté par les populations, les groupes humains qui ont migré vers l'Asie, ou est-ce que c'est quelque chose qui résulte d'une adaptation locale et qui atteste de convergence évolutive sur le plan culturel?
Convergence évolutive qui signifie qu'il y a une concomitance dans des pratiques de type utilitaire à deux endroits très très éloignés de la planète.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez mettre en avant pour la suite? Moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans cette découverte. C'est souvent comme ça, les journalistes, on s'emballe un peu. On lisait partout les plus vieux outils en os découverts, etc. Bon, on l'a bien rappelé, ce ne sont pas les plus vieux outils. Il y en a qui sont bien plus vieux que ça, 2,4 millions d'années en Afrique du Sud. Comment vous avez vécu, vous, ce moment où tout d'un coup, tout s'est emballé un petit peu?
Eh ben, on n'a parfois pas le contrôle sur tout et il faut accepter, malheureusement, il faut accepter. Je pense que c'est très intéressant, en fait, de voir l'emballement de la presse sur ces sujets. Mais en effet, parfois, ça peut donner une fausse impression qui peut être perçue un peu négativement, surtout par les collègues de façon un peu plus critique. Mais en effet, c'est pas le fait que ce ne sont pas les plus anciens outils en os, comme vous l'avez dit. Les plus anciens, ils datent de 2,4 millions d'années en Afrique du Sud, dans le berceau de l'humanité. La chose qui est très unique, en fait, qui est vraiment repoussée là de 1 million d'années, c'est cette production de formes systématiques, ce choix qui est reproduit à moult reprises et qui n'est pas fait que sur le site, mais qui vient aussi des alentours, en fait, du site.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la paléoanthropologie de pratiques comme ça qui émergent un petit peu aux quatre coins de la planète?
De pratiques, vous...
De pratiques qui seraient liées, de pratiques. Donc là, on parle d'une pratique de taille d'outils, mais est-ce qu'il y a d'autres faits culturels, on va dire, qui coexistent, co-émergent, on va dire, dans l'histoire dans la très très longue histoire de l'évolution des espèces humaines?
Oui. Il y a plusieurs registres. Par exemple, quand on regarde l'utilisation des colorants, des matières colorantes, il y a de l'utilisation de matières colorantes qui sont connues en Chine dès 170-180 000 ans avant le présent. En Europe, les Néandertaliens utilisaient aussi des oxydes de manganèse. Mmh. En Afrique, on avait l'ocre. Et donc, voilà, ces comportements ne sont pas tout simplement, ne sont pas uniques. Ils ont pu apparaître de façon convergente en plusieurs endroits de la planète, en effet.
Merci beaucoup à vous, en tout cas, Luc Doyon. Et bravo encore pour cette belle étude et cette belle découverte. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis merci aussi aux équipes techniques des studios d'ICI Gironde pour le duplex aujourd'hui. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Florent Bujon aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.